Vous écoutez France Culture.
Deuxième temps de notre semaine consacré à l'éducation et à son histoire dans la Fabrique de l'Histoire. Après avoir écouté hier Antoine Pro nous raconter son itinéraire d'historien de l'éducation, lui qui publiait il y a 50 ans très exactement son premier livre sur le sujet, et avant demain de plonger dans le fond extraordinairement riche des archives audio et audiovisuelles du Centre National de Documentation Pédagogique, la radio et la télé scolaire comme on l'appelait à l'époque dans les années 60 et 70, et après demain de débattre des différentes façons d'envisager l'éducation des filles au 18e, 19e et 20e siècle, nous allons ce matin nous attarder dans le documentaire de Séverine Niattard et de Séverine Cassard sur les conceptions modernistes de l'école de Célestin Freinet. Dans l'école moderne de Célestin Freinet en 1958, c'est le titre de ce documentaire, nous entendrons la voix de celui qui, il y a 100 ans, intégrait, c'était en 1912 exactement, l'école normale d'instituteurs de Nice. Qu'était donc cette pédagogie moderne que voulait mettre en place Célestin Freinet et qu'il a promu dans des conférences un peu partout dans le monde, comme cette conférence de Neuchâtel en 1958, eh bien, c'est ce que va nous raconter ce documentaire avec les témoignages et les analyses de Guy Goupil, de Michel Barret et de Philippe Mérieux. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin.
Alignez-vous. Mes enfants, voici le nouveau maître. Aussi, je suis certain que vous me ferez honneur en étant avec lui respectueux et discipliné. D'ailleurs, c'est moi qui continuerai à sonner la cloche tous les jours. En avant. Un, deux.
Donc,
j'étais à Nantes, au congrès de 1957, et j'ai vu arriver un petit homme assez âgé, il avait déjà une soixantaine d'années, qui me dit, avec un fort accent méditerranéen, « Tu pourrais me donner un coup de main pour amener cette table ?» Alors je l'aide à ramener la table, et quand je reviens au stand syndical, on me dit « Tu sais à qui tu as aidé ?» Je dis « Non, pas du tout. » On me dit « C'est Célestin Freinet. » Et moi, j'étais très surpris parce qu'on avait étudié Célestin Freinet à l'école normale et j'imaginais un homme, un grand homme en quelque sorte, en costume, un costume cravate, surtout à un jour de congrès, enfin. Donc, cet homme-là, si simple, qui s'occupait même des problèmes matériels, transport de la table, transport des chaises, j'ai été surpris de la bonhomie, de sa modestie, et j'ai été conquis, quoi.
On avait l'impression, parce que il utilisait toujours l'image du berger, etc. Parlait du cheval qui n'a pas soif, qu'on ne peut pas obliger à boire, etc. Bon, il prenait souvent des comparaisons qui, moi, auraient pu me paraître folkloriques. Mais quand on avait un contact direct avec lui, on sentait à quel point, chaque fois, c'était un retour à ses racines qui lui permettait d'aller de l'avant. Et ce n'était pas du tout le schéma sentimental, nostalgique, etc. Pas du tout. Alors effectivement, c'était au fond du même un paysan. Et quand on le voyait faire son jardin, on sentait bien. Mais ce n'était pas une posture qui était donnée. Et justement, s'il était aussi moderniste, parce que c'est quand même pas un hasard s'il a appelé son mouvement l'école moderne, c'est parce qu'il se sentait tellement ancré qu'il se sentait capable d'oser des choses.
L'école moderne de Célestin Freinet en 1958. Un documentaire de Séverine Liattard et Séverine Cassard.
En réalité, Freinet n'est pas dans la contemplation d'un élève qui s'épanouirait naturellement dès lors qu'on aurait à côté de lui une attitude bienveillante. C'est un inventeur absolument insatiable de dispositifs nouveaux, de choses nouvelles, grâce auxquelles Il va mobiliser les élèves, les intéresser et à travers cela les faire réussir.
Pédagogue français, né à la fin du 19e siècle, Célestin Freinet est issu d'un milieu rural. Sa jeunesse se déroule au sein de la communauté paysanne, dans une région pauvre des Alpes-Maritimes. Et son expérience pastorale représentera pour lui le leitmotiv de son expérience éducative. Il entre à l'école normale d'instituteurs de Nice et lorsque la guerre éclate, il est mobilisé. Grièvement blessé au chemin des Dames en 1919, il ne se remet pas complètement de ses blessures et gardera toute sa vie le souffle court, auquel il attribue lui-même pour partie la nature de ses innovations en matière d'enseignement. Sa pédagogie est fondée sur différentes techniques, classe-atelier, classe-promenade et observation du milieu naturel, production de textes libres, correspondance interscolaire, imprimerie et édition d'un journal, individualisation du travail et coopération dans l'apprentissage, suppression également de la notation. Lors de cette séance publique, qui se déroule à Neuchâtel en 1958, Célestin Freinet présente à des parents et à des enseignants les lignes directrices de son enseignement. Dès les années 1920, il met en pratique avec sa femme, Élise, l'essentiel de ses méthodes, qui suscite au départ une certaine hostilité de la part de l'institution et des parents d'élèves. En 1935, Célestin et Élise Freinet décident d'ailleurs de quitter l'éducation nationale pour fonder leur propre école Avance, une école privée, laïque et prolétarienne. Le mouvement Freinet prend forme progressivement, avec la mise en commun des expériences de chacun et la tenue de congrès réguliers, la publication de revues pédagogiques, comme la Bibliothèque du Travail, la Gerbe, l'Éducateur prolétarien ou Technique de vie, ou la création, après la Seconde Guerre mondiale, de l'Institut coopératif de l'école moderne, l'ICEM, puis de la Fédération internationale des mouvements de l'école moderne, la FIMEM.
Nous sommes des instituteurs. Et à l'origine, vous savez, nous n'avons pas fait d'études spéciales pour vous dire comment il faudrait orienter les enfants. Seulement, nous avons fait notre travail d'instituteur. Les instituteurs sont un corps, en général, de choix parce qu'ils travaillent une matière de choix et que vraiment, il faudrait n'avoir aucun cœur pour se désintéresser du travail qu'on fait. Mais les instituteurs travaillaient seuls. Lorsqu'ils avaient une réussite, ils n'osaient pas la confier à leur voisin de peur que le voisin lui dise « occupe-toi, qu'est-ce que tu viens me raconter ?» Lorsqu'ils échouaient, ils craignaient encore davantage de le dire. Résultat, on ne progressait pas parce qu'on ne mettait pas en commun les échecs et les réussites. Et ce que nous apportons de nouveau dans la pédagogie, ce que nous avons réalisé peut-être de plus surprenant, c'est que nous avons constitué une coopérative d'instituteurs, techniciens, qui se réunissent, qui publient des journaux et des revues pour employer ma formule habituelle, pour verser dans le creuset coopératif toutes nos recherches, toutes nos trouvailles, nos échecs et nos réussites.
La coopérative la plus importante qu'il a créée, c'est la coopérative entre les instituteurs eux-mêmes.
Guy Goupil appartient à une famille d'instituteurs syndicalistes. Il prend son poste en 1956.
Dès le départ, les instituteurs se sont regroupés pour mettre toutes leurs expériences en commun. Les revues qui vont être créées par le mouvement Freinet, ce sont des revues qui sont des revues coopératives. Chacun apporte ce qu'il a trouvé, ses expériences, qu'il soumet aux autres, comme pouvant être utile aux autres. D'ailleurs, Freinet, qui était quelqu'un qui avait le sens de l'animation, de l'organisation. Quand il faisait monter quelqu'un à la tribune, donc en plein congrès, très souvent, il disait « Le camarade, là, il nous présente une idée qui me paraît intéressante. » Et tout de suite, il disait « Qui veut bien travailler avec lui ? Il faut former un groupe. »
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur.
Après la Seconde Guerre mondiale, Michel Barré s'occupe d'enfants en difficulté. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser aux méthodes Freinet.
C'est ça qui est très enrichissant, c'est d'avoir l'occasion de rencontrer des collègues et de quelquefois se redonner le moral mutuellement, parce qu'il n'y en a eu que certains qui ont subi des critiques, soit de parents, soit d'inspecteurs, qui trouvent que ce n'est pas assez Jules Ferry. Donc c'est un soutien mutuel. Et puis aussi de prendre des initiatives ensemble.
Il fallait être courageux hein, pour changer l'école à l'époque.
Guy Goupil.
Parce qu'on modifiait complètement toutes les structures. J'ai connu un camarade qui disait aux autres, si vous voulez voir une école où on danse le cha-cha-cha, allez chez Goupil. Hein, vous voyez, il n'avait pas compris du tout qu'on ne dansait pas le cha-cha-cha. Les enfants avaient beaucoup d'une certaine forme de liberté. Disons qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient faire. Ce n'est pas une liberté où on ne fait rien. C'était, on peut faire ce que l'on veut faire.
Freinet institue en quelque sorte l'enseignant comme un vrai professionnel, solidaire des autres professionnels et chercheur de ses propres pratiques.
Philippe Mérieux, pédagogue et chercheur en sciences de l'éducation.
Il inverse un mouvement qui a existé à l'époque et qui, à certains égards, existe toujours aujourd'hui, qui est le mouvement de prolétarisation des enseignants. Et le mot prolétarisation, on peut le prendre ici sans trahir Freinet au sens de Marx. Marx dit que l'ouvrier est prolétarisé quand son intelligence est transférée dans la machine. C'est-à-dire que c'est la machine qui est intelligente à sa place. Mais on peut dire qu'un certain nombre d'enseignants ont été ou sont prolétarisés quand c'est les outils, les manuels, les logiciels, les instructions, l'institution, les QCM qui font leur travail à leur place et qui sont de simples exécutants de ces instructions ou de ces outils. Freinet renverse les choses, il déprolétarise l'enseignant et il dit l'enseignant c'est un chercheur, l'enseignant c'est un chercheur pas solitaire mais qui doit mutualiser ses acquisitions avec d'autres et il doit être à ce titre respecté comme un véritable inventeur. J'allais employer le terme un intellectuel. Je ne sais pas si Freinet aurait aimé qu'on le traite d'intellectuel, parce qu'il avait ce caractère terrien qu'on ressent dans sa voix et une méfiance par rapport aux intellectuels qu'il voyait comme un peu trop éloignés de la pratique. Mais je crois que oui, on pourrait dire que Freinet donne toute sa noblesse au métier d'enseignant et dans des réseaux où les débats étaient parfois extrêmement vifs.
Et nous avons, chemin faisant, reconsidéré bien des choses. Parce que vous savez, l'école vit sur des traditions qui datent d'au moins 300 ou 400 ans. Du temps où les écoles commençaient, tenues par des moines, qui en ce temps-là faisaient peut-être très bien leur classe, mais qui la faisaient pour une partie choisie de la population et pas pour la masse comme celle à laquelle on s'adresse de nos jours. Nous vivons donc, l'école vit donc sur des traditions plus que centenaires, et ce sont ces traditions que nous avons senti la nécessité de bouleverser. Ah, sûrement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, vous savez, qui que ce soit, lorsqu'on veut changer quelque chose, on est toujours mal accueilli.
En 1958, ce qu'on appelle le mouvement de l'éducation nouvelle, dans lequel s'inscrit Célestin Freinet, ne touche pour l'essentiel que la maternelle et le primaire. Mais il y a déjà un certain nombre d'établissements secondaires où il y a des pratiques qui se rapprochent ou qui sont inspirées de la pédagogie Freinet. Mais effectivement, c'est essentiellement au primaire qu'on trouve la pédagogie Freinet, pour plusieurs raisons. D'abord parce que au primaire, il y a un instituteur qui a la même classe toute la journée. Ça facilite un peu l'organisation du travail selon des normes un peu différentes. D'autre part, il n'y a pas la pression que l'on peut avoir au secondaire, ni le découpage disciplinaire un peu sec qui fait qu'aucun professeur ne peut aller se promener dans une autre discipline que la sienne. Néanmoins, il existe et il existera dans les années qui suivent des cours complémentaires, il existera des classes de fin d'études où on voit émerger des pratiques pédagogiques proches de la pédagogie Freinet. Il existe aussi à l'époque dans un enseignement plus marginal, je pense à l'enseignement agricole, des maisons familiales rurales, je pense à certains types d'enseignement professionnel, qu'ils soient confessionnels comme chez les Salésiens ou non confessionnels. Il existera aussi des pratiques pas très éloignées de la pédagogie Freinet. Et puis on va voir ces pratiques se développer dans d'autres secteurs que celui de l'enseignement lui-même. On va voir en particulier les pratiques de l'éducation nouvelle entrer beaucoup dans le secteur qu'on pourrait appeler des loisirs, de l'animation, portés par les mouvements d'éducation populaire, qui sont nés pour l'essentiel dans la mouvance du Front populaire en 1936, hein, qui se sont développés en tout cas dans cette mouvance-là. Et les instituteurs sont tous membres, plus ou moins, d'un mouvement d'éducation populaire. Ils sont tous aussi directeurs de colonies de vacances, ils sont responsables de patronage, ils font des tas de choses à côté de leur métier d'instituteur. Et il y a une certaine porosité à l'époque entre la sphère des loisirs, la sphère de la culture et celle de l'école.
Qu'est-ce que vous avez appris comme leçon aujourd'hui? Vous avez perdu votre langue?
Monsieur, c'était Charlemagne.
Charlemagne? Puisque t'as commencé, continue.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie, les maires du palais.
Oh, merci, merci, t'as fait du fort. Voilà. Au lieu de lire, tu vas m'en parler, Charlemagne.
Il faut voir le problème de l'école tel qu'il se pose en 1958 et non tel qu'il se posait quand j'étais jeune au début du siècle. Au début du siècle, on n'avait pas tellement besoin de pré-apprentissage ni d'orientation à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas encore la grande industrie actuelle. La naissance de la grande industrie, les changements sans cesse accélérés font que les enfants, que les individus sont désaxés en face des tâches qu'on leur donne. Et alors, parmi ces tâches, il y en a de diverses qualités. Il y a des tâches qui demandent une certaine préparation, qui demandent une certaine part de l'individu, une certaine intelligence. Et puis, il y a cette part que je pourrais dire mécanique, qui était devenue presque prédominante dans l'industrie. Lorsque on embauche par exemple des ouvriers et qu'il suffit de tamponner quelque chose, de faire ça, vous savez, on peut demander à des orienteurs munis de tests et de machines de voir quel est l'ouvrier qui est le plus prédisposé à faire vite ce geste-là. Mais voilà que depuis un an ou deux, on s'est aperçu que lorsque on va vers l'automation, on n'a plus tellement besoin de ces hommes et de ces femmes mécaniques, mais on a besoin d'hommes et de femmes intelligents. Et les industriels, les chefs d'industrie, sont en train de rétablir la primauté de l'intelligence. Et il résulte de ce fait que, de plus en plus, sur le marché du travail, l'individu cultivé, l'individu intelligent, qui a beaucoup de possibilités, gagne beaucoup mieux sa vie. Alors que ceux qui restent robots ne gagnent plus leur vie. Alors là, nous aurons à aborder le problème de la préparation technique, pour ainsi dire, de ces hommes intelligents qui vont entrer dans la production. Or, est-ce que l'école a préparé ces hommes intelligents qui rentreront dans la production? Elle ne les a pas préparés. Je ne dis pas qu'elle n'a pas préparé des hommes intelligents. Elle a préparé l'école à cultiver une certaine intelligence qui se cultive simplement par les travaux intellectuels, c'est-à-dire des études dans les langues, dans les sciences, mais toujours des études que je pourrais dire désintéressées, pour employer le mot habituel, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir à quoi cela va servir, on développe l'intelligence située en dehors de la vie, en dehors de la société, à tel point que lorsque dans nos classes nous enseignons cela, l'enfant ne se rend même pas compte que ça fait partie de la vie. Il ne pense pas que cela puisse leur servir un jour pour leur culture ou même pour leur futur métier. Alors ceci, c'est la négation complète de la culture. Et en tout cas, c'est la négation complète d'une culture intégrée à la vie.
Dans ce discours, aussi dans cette causerie de 1958, Célestin Freinet insiste sur cette société aussi industrielle qui change, une industrie qui a besoin désormais d'hommes intelligents. Enfin, je reprends ces mots. Et donc, il y a vraiment cette idée que l'école doit faire lien, en fait, avec la société et avec la société industrielle en particulier. Et ça, c'était aussi, pour vous, en tant qu'instituteur, un point important, ne pas couper, justement, ces jeunes élèves de la réalité, de la vie, enfin...
Absolument. Lorsque je suis arrivé à Mayenne, par exemple, on sortait avec les enfants écrivaient pour avoir la possibilité d'avoir un rendez-vous à l'usine.
Guy Goupil.
Et on faisait des visites d'usine. On a visité, par exemple, des usines de fabrication de poudre de lait, des fonderies, des imprimeries. Donc, à chaque fois, il y avait là un travail global qui se faisait au niveau des mathématiques, Parce que les enfants, vous savez, ils sont pleins d'astuces. Hein. Et pendant que le responsable de l'usine faisait visiter l'usine et donnait des explications, il mesurait avec les pieds ou avec le coude, par exemple, le tour des cuves. Et puis, lorsqu'ils étaient rentrés à l'école, en classe, alors ils reprenaient les mesures, ils les mettaient dans les mesures en mètres et en centimètres, et ensuite ils refaisaient le plan de l'usine à partir de là. Vous voyez que ça allait très loin, même au niveau des mathématiques. Et alors évidemment, il y avait toutes les sciences qui se retrouvaient, parce que bon, le lait, bon, on apprenait énormément de choses sur le lait, donc on pouvait aussi faire du fromage, puisqu'il y avait le moyen de faire du fromage. Et ils ont fait du fromage, par exemple.
Il fallait valoriser la polyvalence, en fait, c'est ce que dit aussi Célestin Freinet, c'est-à-dire prendre un travail du début jusqu'à la fin avec toutes les disciplines que cette enquête, par exemple, va mobiliser.
Absolument, absolument. Et comme vous savez que le centre de la pédagogie Freinet, c'est la coopération, hein, donc les enfants, là, sont d'abord très, très motivés hein, pour faire un travail comme celui-là, ça les intéresse profondément. Hein. J'ai fait une enquête, par exemple, chez un boulanger avec des enfants. On a travaillé l'année entière sur l'enquête de la boulangerie, parce que ça nous a emmené très loin. Ça nous a emmené vers la levure de bière, vers tout ce qui concernait les alcools, la transformation des sucres. Enfin, ça allait très loin.
Vous allez prendre chacun un cahier.
Quel cahier?
N'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Déchirer une page blanche.
Déchirer une page de cahier?
Oui, quoi. On dirait que ça te déchire le cœur. Puis vous allez écrire tout ce que vous pensez, tout ce qui vous intéresse. Tout à l'heure, quand j'avais le dos tourné, vous aviez quelque chose à dire. Ben, écrivez-le. Vous pouvez dessiner. Allez, mettez-vous au travail.
L'intelligence ne saurait être séparée de la vie et du travail, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Le travail doit donc être intégré à la vie. Il doit y avoir, à la base de tout métier, de toute fonction, une préparation fondamentale, autant que possible polyvalente, c'est-à-dire qu'il faudra que l'école s'applique à préparer dans l'individu toutes les possibilités de chacun. Tout ce qui est affectif, ce qui est sensible, ce qui ne se mesure pas. La formation de l'affectivité est une partie importante de notre pédagogie. Que nous ne devons pas penser que l'individu n'est que connaissance, n'est que leçon, n'est que devoir, n'est que tâche, mais qu'il est aussi et surtout une personne sensible et que cette sensibilité a toujours une très grande résonance pour son propre comportement et pour le comportement de la masse, de la société dans laquelle cet individu travaille. Et c'est pour cette affectivité que nos méthodes ont fait beaucoup pour reconsidérer cette affectivité de l'enfant, pour reconsidérer le milieu de travail des individus.
Je ne suis pas sûr que Freinet soit quelqu'un qui fasse l'apologie de l'expression de l'émotion dans la classe. En revanche, comme tous ceux et celles qui autour de lui travaillent dans la mouvance de l'éducation nouvelle, il pense qu'on ne peut pas couper l'enfant en tranches, qu'il n'y a pas d'un côté la raison, de l'autre côté l'affectivité, de l'autre côté le corps, et que tout ce qui est du cognitif doit être relié à de l'affectif, qui doit être relié au psychomoteur, parce que l'enfant est un, c'est une personne, une et indivisible. C'est une forme de reconnaissance de l'enfant complet. Mais enfant complet ne veut pas dire enfant achevé. C'est un être fragile, puisqu'il est par définition un enfant inachevé, mais il a toutes les dimensions d'un adulte. Et comme le disait Korczak, notre grand pédagogue, qui n'a pas connu Freinet, enfin en tout cas pas directement connu Freinet, les souffrances des enfants ne sont pas des petites souffrances, les joies des enfants ne sont pas des petites joies. L'enfant est à ce titre un être complet, et Freinet ne cesse de le dire et de le rappeler à des adultes qui voudraient réduire l'enfant à une partie de leur être, simplement.
Ce qui est caractéristique de la pédagogie Freinet, c'est que ça n'est pas un cadre strict et fermé.
Michel Barré.
Et alors, comme j'ai fouillé dans tous les écrits de Freinet, y compris les notes de lecture, j'en ai retrouvé une de 1935, où il fait un éloge appuyé d'un livre de Charles Nicolle, qui est bactériologiste, et qui a écrit un livre, « La nature, conception et morale biologique ». Et Freinet fait un éloge dithyrambique de ça. Ça m'a surpris. Effectivement, j'ai compris à quel point Freinet se reconnaissait dans cette vision biologique de l'éducation, Parce que ce que lui reprochait souvent à l'éducation traditionnelle, c'est que sous prétexte d'être rationaliste et matérialiste, on cloisonnait les choses en tranches. Une image que j'utilise quelquefois, les pas de Freinet, c'est que si on scie un arbre en grandes rondelles et qu'on empile ensuite les rondelles, on n'aura plus jamais un arbre, on aura du bois.
Mais vous autres parents, il faudrait que vous aidiez les instituteurs justement dans ce biais, leur bien faire comprendre que ce qui importe, c'est l'expérience qu'on peut faire. Il vaudra bien mieux que vos enfants expérimentent un jour, cherchent par exemple le point de vue électricité, comment on monte une pile, comment on se sert de cette pile, comment on démonte un appareil, ou faire des expériences scientifiques. Et il faudrait que l'école puisse également aider les enfants, leur permettre de faire ces expériences. C'est dans la mesure où on fait ces expériences qu'on progresse en science. Et dans un de nos journaux pédagogiques français, un des grands maîtres de notre université, je ne sais pas quel titre il a, préconisé justement pour l'enseignement scientifique un enseignement qui transformerait toutes les salles de cours en salles d'expérimentation avec des professeurs qui seraient là pour les aider, pour les conseiller, pour essayer de tirer les conclusions de ces expériences. Alors oui, on formerait des scientifiques, mais là il faudrait naturellement une autre conception des locaux, une autre conception du matériel, une autre conception des professeurs aussi, tout un monde qui nous sera difficile de remuer. Mais nous faisons quelque chose tout de même. Nous avons préconisé la transformation de nos écoles en classe-atelier. Nous avons dans notre école 4 ou 5 ateliers. Nous mettons nos enfants à 3 ou 4 dans le même atelier. Et là, ils font du travail et des expériences. Ils réalisent quelque chose. D'abord parce qu'en cultivant leurs mains, en exerçant leurs mains, ils exercent leur cerveau. Parce qu'ils se libèrent, parce qu'ils ont conscience alors de pouvoir faire quelque chose. Alors qu'on leur a toujours dit, toi tu es bon à rien, tu échoues toujours. Eh bien là, ils réussissent quelque chose, même s'ils ne font qu'un petit bateau qui arrive à surnager sur l'eau. C'est une réussite.
On avait par exemple ramené des champignons très divers qu'on avait glanés. Eh bien, si on donnait un champignon par enfant que lui demandait la description, c'était très rapidement terminé. Et ce qui l'intéressait, c'est est-ce que ça se mange ou pas. Alors que l'habitude que j'avais prise, c'est de, avec des groupes de deux, leur donner deux champignons et de comparer ce qui est pareil et ce qui est différent dans chacun. Et ça allait beaucoup plus loin. Et quelquefois, ils n'étaient pas d'accord avec le copain, etc. Mais ils allaient vraiment au fond des choses. Et le nom du champignon, et est-ce qu'il se mange ou pas, passait après. À tel point que je me suis aperçu qu'avec des pierres, des cailloux qu'on avait ramassés très divers, ils étaient allés dans des expériences que je n'avais pas pensées, c'est-à-dire de les cogner entre eux pour voir ce qui faisait des étincelles et quelle odeur ça faisait quand on les tapait. Ce qui prouve que ça aidait justement à les stimuler cette comparaison, plutôt que de devoir analyser un caillou, même nous adultes, on a très vite fait le tour.
Alors, on entend bien dans cette conférence quelque chose qui est aussi très fortement dans sa philosophie, c'est l'idée de la classe-atelier.
Philippe Mérieux, pédagogue.
Il y a à la fois une très belle intuition là-dedans, et pour Freinet, petit à petit, c'est une intuition qui va être problématique. Freinet, au début, on le sait, va utiliser la correspondance scolaire, va faire des journaux scolaires, va faire des enquêtes à ses élèves, par petits groupes de travail comme ça. Et qu'est-ce qu'il découvre assez vite? Que quand on met 3 ou 4 élèves ensemble au travail, on n'a jamais la certitude que les 3 ou 4 élèves progressent. On n'a jamais la certitude qu'il n'y a pas un concepteur, 1 ou 2 exécutants, et puis un chômeur. On n'a jamais la certitude que pour faire un beau journal, eh bien, on ne met pas de côté celui qui ne connaît pas l'orthographe et qui ne sait pas dessiner. Parce que si vous dites aux élèves, faites un beau journal, pour faire dessiner celui qui ne sait pas dessiner, il faut être masochiste. Bon. Ou pour faire apprendre l'orthographe celui qui ne sait pas l'orthographe, il faut avoir beaucoup de temps à perdre. Et donc Freinet va le découvrir, et moi-même pour avoir travaillé sur des textes de Freinet des premières années de son enseignement, il le découvre assez lentement. Je me souviens d'un texte dans lequel il explique qu'une petite fille, au moment de la rédaction du journal, était en quelque sorte mise à l'écart de tout parce qu'elle ne savait rien faire. Alors on la met à ranger les caractères d'imprimerie dans les cases, mais même ça, elle n'y arrive pas. Et la classe fait en quelque sorte œuvre d'exclusion en disant « mais il ne faut pas qu'elle fasse quelque chose, parce que si elle fait quelque chose, ça sera mal fait, le journal sera raté, on ne pourra pas l'envoyer à temps, etc. etc. » Et c'est là où la pensée de Freinet est extrêmement fine, c'est que progressivement, face à cette classe atelier et au danger qu'elle représente de voir s'installer une division du travail entre les bons et les faibles, il va introduire des processus correcteurs.
Vous avez vu ce qu'ils ont inventé, ces enfants? Ils ont installé une usine électrique au bord du torrent.
Ils appellent ça la houille blanche.
Une usine électrique? Pas possible.
Je paye le central, évidemment. Ah.
Ce que nous recommandons à nos instituteurs, c'est de ne pas trop parler aux parents. Mais savez-vous, ce qui réussit à 100%, c'est lorsque, vers le mois de février, mars ou avril, lorsque la classe a déjà bien fonctionné, un jour, l'instituteur organise une classe exposition. Dans sa classe, on expose les travaux des élèves, les belles peintures, les textes, tout ce que les enfants ont réalisé d'intéressant. Et puis, on met la classe au travail. Un enfant est en train d'imprimer, l'autre compose pour imprimer ensuite, l'autre grave un linoleum, d'autres sont en train de peindre, d'autres préparent des poteries, et les parents entrent et ils circulent. Alors ils voient la forme nouvelle d'école. « Oh, mais c'est mon gosse qui est en train de peindre comme ça. Oh, je ne croyais pas si artiste. » Un autre, « Oh, mais c'est toi qui grave. Oh, moi je te croyais maladroit comme tout. Maintenant tu sais graver des choses comme ça. » Ah, mais c'est vous autres qui imprimez ces belles choses. Oh, mais je ne savais pas que vous faisiez ça. Et les parents sont satisfaits. Ils s'en retournent en disant, mon fils, il travaille dans cette école. Nous leur faisons toucher du doigt que tous les enfants ont des possibilités énormes. Il suffirait de mobiliser ces possibilités. Nous, nous tâchons de les mobiliser.
Il faut qu'il y ait des échanges avec les parents. Moi, je me souviens, par exemple, de maquettes que les élèves avaient inventé eux-mêmes, hein, pas uniquement ajusté des choses qui étaient déjà fabriquées. Et ils se rendaient compte à quel point ils avaient tendance à sous-estimer les possibilités de leurs enfants.
Dans ma classe, par exemple, je faisais une réunion de parents tous les mois, mais les parents assistaient à la réunion qui était organisée par les enfants. C'était les enfants qui organisaient la réunion. J'ai eu un élève qui a présenté un jour une conférence, puisque vous savez que les enfants présentaient des conférences. Et j'ai un élève qui a présenté une conférence aux parents sur l'Asie du Sud-Est. Il avait travaillé sa géographie sur l'Asie du Sud-Est et il a présenté une conférence d'une heure et demie aux parents.
Aujourd'hui, on entend souvent « il faut que les élèves soient motivés pour réussir ». Et Freinet est un des premiers à avoir dit l'inverse, à avoir dit qu'il faut les faire réussir pour qu'ils soient motivés. Freinet est un de ceux qui a le mieux expliqué que ce qui démotivait l'élève, c'était l'échec. Et qu'il ne fallait pas attendre la motivation. Vous savez, il y a une célèbre phrase de Freinet à propos de l'enfant et des savoirs qui est « on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif ». Mais on oublie en général de mettre cette phrase dans son contexte et d'expliquer que les ânes peuvent ne pas avoir soif, mais ce qui caractérise un âne, c'est que si on le prive de boire pendant un certain temps et si on compte sur la chaleur de l'été, il finit toujours par avoir soif. Alors que l'enfant que l'on prive de mathématiques, surtout avec la chaleur de l'été, ne finit pas par vous demander le théorème de Pythagore. Et donc, quand il s'agit de faire boire les ânes qui n'ont pas soif, on peut se contenter de croiser les bras et d'attendre en disant « ils finiront bien par avoir soif ». Quand il s'agit de faire désirer les mathématiques par des élèves, il ne suffit pas d'attendre et de dire « voilà, ils finiront un jour par demander des mathématiques ». Et c'est là où Freinet bascule d'une théorie de la motivation à une théorie qui est plutôt une théorie de la mobilisation. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que l'enfant soit motivé, comme on a pu le croire de manière caricaturale. Il s'agit de mobiliser l'enfant et de le mobiliser sur des enjeux intellectuellement très forts. Et ça, c'est une caractéristique qu'on a peu soulignée de la pédagogie Freinet, c'est qu'il critique la pédagogie traditionnelle non pas parce qu'elle est trop difficile, mais parce que d'une certaine manière, elle est trop faiblarde. Elle ne mobilise pas les enfants sur des problèmes qui comptent vraiment pour eux. Les exercices mécaniques que l'on peut faire à des enfants finissent par les démobiliser alors qu'on croit leur faire acquérir ce que Freinet conteste beaucoup et qu'on appelle les bases. Et il dit « mobilisons les enfants sur des enjeux intellectuels difficiles ». Freinet est un de ceux, il le fera à travers la BT, la fameuse bibliothèque de travail, qui considère qu'il faut initier les enfants à Darwin dès l'école primaire en les faisant accéder à des débats scientifiques parce que ça les intéresse et ça les mobilise. Et c'est vrai, ça les intéresse et ça les mobilise.
Et puis, nous tâchons de donner aux enfants l'amour du travail. Ça, avec la curiosité que nous voulons leur sauvegarder, c'est l'essentiel. Mais pour cela, il faut redonner au mot de travail tout son sens. Il faut dissocier absolument travail de devoir. Il ne faudrait plus qu'on appelle le travail à la chaîne, par exemple. Ça devrait avoir un nom nouveau, le travail à la chaîne, pour laisser le nom de travail à toutes les choses que nous exécutons en faveur de l'individu ou en faveur de la société. Eh bien, nous apprenons à nos enfants le goût du travail bien fait, l'amour du travail.
Freinet s'est beaucoup démarqué de tous ceux qui considéraient l'éducation et la pédagogie nouvelle comme étant une forme d'activité ludique dans laquelle on laisserait l'enfant s'exprimer librement. Pour lui, le travail est vraiment du travail. Et si l'école ne fonctionne pas comme il le souhaiterait dans sa forme traditionnelle, c'est parce qu'on ne met pas les enfants au travail suffisamment. Il ne faut pas oublier que c'est un peu anecdotique, mais Freinet a démarré dans l'enseignement donc dans les années 1920. Il avait été blessé assez gravement pendant les années 14-18 à la guerre. Et de cette blessure, il avait gardé un handicap assez fort en particulier. Il avait du mal à parler devant un groupe, à tenir le rôle du maître sous sa forme traditionnelle. Et je crois que c'est Élise Freinet, sa femme, qui dit un jour dans une confidence que Freinet aurait découvert que tout ce qui handicape l'activité du maître favorise la liberté et surtout le travail et l'activité de l'élève. Et ça, c'est peut-être au fond une des idées fortes les plus révolutionnaires pédagogiquement de Freinet, c'est la classe n'est pas un lieu où le maître travaille, où le maître s'exhibe, fait cours, c'est un lieu où l'élève doit travailler. Mettons les élèves au travail. Le maître lui-même n'est qu'une sorte d'assistant du travail des élèves. Alors c'est lui qui propose les méthodes, mais il leur donne des choses à faire et il fait de ses tâches la priorité.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, F, 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 S, P, A, O, R, T, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, U, S, A, R, A, U, R, D, A, UNESCO, URSS, GB, ONU, CON.
Il faudrait bien que nous habituions nos enfants à remplir leurs fonctions de citoyens plus tard. Et remplir les fonctions de citoyens, cela veut dire avoir le droit, dans le courage plutôt, dans une association, dans une assemblée, de lever le doigt pour protester contre ce qui se fait, pour donner son point de vue, même si on sait que ce point de vue n'est pas celui des autres, si on sait qu'il contrarie les habitudes courantes. Il faut avoir ce courage qu'ont tous les instituteurs de notre mouvement de présenter des solutions nouvelles au sein des familles également. Je sais bien que la famille n'aime pas trop en général que l'enfant se singularise. Il préférerait que l'enfant reste dans le giron maternel et il fasse comme on a toujours fait, qu'on ne fasse pas parler, qu'on ne dise pas cela. Pourtant, les progrès viennent tous des gens qui n'ont pas pensé exactement comme les autres, qui ont fait ce que les autres ne faisaient pas, qui à l'origine a paru comme des folies et qui plus tard ont été justement reconnus comme étant au contraire très raisonnables. Nous habituons nos enfants à savoir se critiquer et à savoir critiquer les autres. En ce sens qu'on pourra dire l'école qui a formé ses enfants a bien rempli son rôle. Sinon, nous n'aurons formé que des béni oui-oui, nous n'aurons pas préparé les générations de demain.
C'est pas l'école qui va changer la société, parce qu'il n'a jamais eu cette prétention, parce que ça serait vraiment présomptueux, mais de dire que si on ne change pas l'école, on n'arrivera jamais à changer la société. parce qu'il faut former des citoyens qui créeront eux-mêmes la société dont ils ont besoin. Même lui acceptait les critiques parce qu'il croyait que c'était le débat qui faisait avancer les choses.
Freinet me semble astucieux et où il dit des choses qui prêtent encore, me semble-t-il, à réflexion. C'est quand il laisse entendre que l'école n'est pas obligée de suivre en tout et pour tout la société.
Là, il dit même,
bien sûr, il dit même à certains moments qu'il faut que l'école corrige clairement un certain nombre de défauts de la société. Et il anticipe certaines réflexions que les chercheurs développent aujourd'hui sur ce qu'on appellerait la fonction thermostatique de l'institution scolaire. Vous savez, le thermostat, c'est ce qui fait monter la température à l'intérieur quand il fait trop froid dehors et ce qui la fait descendre quand il fait trop chaud. Eh bien, les chercheurs disent aujourd'hui, c'est souvent ça la fonction de l'école. Dans une société qui était entièrement une société de l'écrit, l'école avait à introduire l'image, avait à promouvoir l'audiovisuel. Aujourd'hui, dans une société dominée par l'audiovisuel, peut-être l'école a-t-elle à réintroduire l'écrit et à faire retravailler sur l'écrit. Les chercheurs disent aussi que dans une société qui accélère tout et qui est dominée par le pulsionnel, par la réaction immédiate, par le passage à l'acte, eh bien le rôle de l'école, c'est la décélération, c'est le fait de prendre son temps, c'est le fait de se donner du temps pour réfléchir. D'ailleurs, il l'évoque dans cette causerie et je trouve que c'est un beau moment.
Je voyais même ça d'un point de vue beaucoup plus politique. Il dit l'école n'est pas faite pour adapter l'enfant à la société, au sens qu'il faut être critique. Et l'école doit apprendre à l'enfant à exercer un esprit critique. Enfin, il y a ce côté un peu révolutionnaire chez Freinet. Alors, il faut le remettre dans son contexte aussi. Lui-même communiste, admirateur de la révolution russe en 17. Donc, on voit bien que l'école est là aussi, et l'enseignement est là pour changer à terme la société.
Oui, et c'est assez prémonitoire aussi, cette conception. Il dit que l'école n'est pas là pour former des bénis oui-oui. Elle est là pour former des citoyens critiques. Alors, il n'est pas le premier à le dire. Hein. Condorcet le disait déjà, et Jules Ferry le disait aussi, et Ferdinand Buisson également. Il est le premier à pousser un peu, d'une manière assez radicale, cette affirmation, en disant... on ne va pas enseigner de la même manière à des enfants que l'on veut former en citoyens obéissants et à des enfants à qui l'on veut donner la possibilité de s'impliquer dans une démocratie. Ce qui est visionnaire dans ce propos, c'est l'idée d'une éducation pour la démocratie. Et Freinet est réfractaire à toutes les formes de catéchisme religieux ou politique. Et il est partisan d'une pédagogie qui permette le débat démocratique et qui permette l'émergence d'une démocratie. Alors on sait bien que la démocratie est quelque chose de fragile, de toujours à reconstruire et qui nécessite une éducation différente de toutes les formes de totalitarisme ou de despotisme. Une éducation que Célestin Freinet a passé précisément toute sa vie à essayer de construire.
Je terminerai en disant que nous avons encore innové dans un autre sens, qui est celui de la notation des enfants, c'est-à-dire du classement des enfants. Vous savez qu'actuellement, les équipes d'orienteurs sont obligées naturellement d'examiner les notes des enfants, ou bien ils font passer des tests, divers tests qui sont plus ou moins parfaits, mais l'école ne leur apporte pas l'aide qu'elle devrait leur apporter. Alors nous avons imaginé un autre système, qui est les brevets. Et tous les samedis, nous exposons ce que les enfants ont fait. Alors, il faut qu'ils réalisent quelque chose en histoire, faites des maquettes, présentez quelque chose, en dessin, apportez des dessins, en science, en calcul, faites des mécaniques, débrouillez-vous, apportez quelque chose de tangible que nous puissions mesurer. Et puis, tous les mois, la dernière semaine du mois, nous l'employons à des brevets. Nous avons établi quelques 30 brevets. Alors, il y a le brevet de conteur, le brevet de bon lecteur, le brevet de mécanicien, le brevet d'artiste, le brevet de graveur, le brevet de nageur, le brevet... Il y a un bon nombre de brevets. Pourquoi ? Pour que, justement, chaque enfant puisse avoir ses chances. Nous, notre expérience a été très concluante dans ce domaine. Les bons élèves avaient, en fin d'année, jusqu'à 16, 18 brevets. Ceux qui étaient moins forts en avaient 5, 6 ou 7. Et j'étais très content de finir l'année avec 6 ou 7 brevets. Mais ce qu'il y a de caractéristique, c'est qu'aucune liste de ces brevets ne concordait. Chacun avait sa spécialité de brevet. Alors si cette pratique des brevets pouvait être généralisée, non seulement au premier degré, mais même au second degré bien préparé, l'orienteur ou le chef d'entreprise qui voudrait accueillir un enfant dirait « Montre-moi un peu tes brevets scolaires. » Et sur les brevets scolaires, il verrait justement ce qu'il faisait bien à l'école là, où il avait triomphé là, où il avait baissé là, de façon à, autant que possible, faire marcher dans les voies où il est efficient pour faire réussir l'enfant. Ne pas l'orienter, au contraire, sur des pistes où il échouera.
Le système des brevets, il l'emprunte au scoutisme. Le brevet, c'est quelque chose qu'on passe quand on se sent prêt pour attester d'un certain niveau. Et il ne le dit pas dans la conférence, mais on le trouve dans de très nombreux textes. Freinet va distinguer très vite les brevets obligatoires et les brevets facultatifs. Brevet obligatoire parce qu'il considère qu'il y a un certain nombre de savoirs et de savoir-faire qu'il faut absolument que l'élève rencontre. Et il faut lutter contre ces processus d'exclusion qui peuvent intervenir dans le travail de groupe. Donc, il faudra du travail individuel pour précisément faire en sorte que chaque élève atteigne un niveau qui est nécessaire pour lui dans chacune des dominantes fondamentales que sont l'orthographe, la grammaire, l'arithmétique, etc. Et puis, il y a les brevets facultatifs qui correspondent, on va dire, aux goûts, aux aptitudes et à ce que chacun peut prendre comme initiative. Le brevet de chasseur de papillons n'est pas un brevet obligatoire, alors que le brevet de grammaire niveau 1 est un brevet obligatoire. Et on voit bien comment Freinet va mettre en place une sorte de dialectique entre le travail collectif et le travail individuel, dialectique qui est très novatrice et dont nous aurions bien besoin de nous inspirer aujourd'hui, parce que, à ne pas avoir assez écouté Freinet, plutôt que de la dialectique, on est dans l'oscillation, avec du tout collectif ou du tout individualisation, comme on l'entend parfois aujourd'hui quand on parle de formation.
On a des plans de travail annuels qui indiquaient le but qu'on avait à atteindre dans les différentes matières. Donc, par conséquent, les enfants savaient, par le plan annuel de travail, où ils en étaient dans les connaissances à acquérir dans l'année. C'est toute la différence avec la pédagogie traditionnelle. Le maître n'est pas là pour imposer un travail. C'est l'enfant qui est à la base de sa recherche et c'est le maître qui vient lui donner le coup de main pour arriver. Et évidemment, et ils ont envie, hein, tout le monde a envie de grandir. Ils ont envie de savoir. Ils ont envie aussi de réussir.
Oui, il est évidemment, il le dit dans la conférence, hostile aux notes. Et il a raison. Les notes sont une absurdité. Elles sont une absurdité parce qu'elles sont inexactes. Elles sont une absurdité parce que, dès qu'on a des notes, on fait des moyennes et on imagine qu'un 12 en anglais va rattraper un 8 en mathématiques, ce qui est une absurdité intellectuelle absolument totale. Et il est hostile aux notes aussi parce que c'est une manière de classer et non pas de faire progresser. C'est la raison pour laquelle Freinet ne s'arrête jamais à une évaluation négative. Quand un enfant a une évaluation négative, il lui demande de reprendre son travail. Parce que c'est très exigeant, la pédagogie Freinet. Alors Freinet n'utilise pas les notes. De temps en temps, néanmoins, d'après certains témoignages, il donne des équivalents en notes, parce qu'il sait bien que les élèves seront notés par le système, et qu'il faut les préparer à cette notation et à ces évaluations, à ces examens. Freinet regrette que les examens soient faits ainsi, mais néanmoins, il ne veut pas les mettre en difficulté.
J'ai voulu, moi, au cours de cette causerie, un peu à bâton rompu, parce que c'est certes délicat, et puis nous ne sommes pas des orienteurs, je le répète, j'ai voulu simplement marquer que cette orientation doit avoir des bases, des fondements, dans justement la préparation que nous donnons, nous, à nos enfants, dès le premier degré, que vous, parents, vous devez penser également que cette orientation ne se fera pas à 14 ans ou à 15 ans, mais que c'est maintenant que vous la préparez, que vous ne devez pas décider d'avance trop tôt ce que fera votre enfant. Dans la société actuelle, il ne faut pas condamner trop tôt les enfants à faire toujours le même travail que peut-être ils n'aimeront pas. Il faut vous orienter, comme nous orientons nous, vers un polytechnisme, c'est-à-dire que l'enfant doit aborder tout un tas de pistes, de façon que plus tard, il puisse avoir un certain choix, que lorsqu'il est entré dans un métier et puis ça ne lui plaît pas assez, peut-être se présente une autre chance, il prendra cette chance-là. Peut-être il fera pendant 10 ans un métier et puis un autre métier se présentera, où il réussira davantage, il le prendra encore. Dans la société actuelle, nous ne savons pas exactement ce que sera demain. dans cette société tellement difficile, vous savez, tellement dure, qui sera celle à laquelle ils auront affaire, il faut que nous les équipions pour qu'ils ne se contentent pas de subir la société qu'ils auront en face d'eux, mais qu'ils s'apprêtent avec leurs camarades à la dominer.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la boîte du chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver.
Merci à l'association des Amis de Fresnay et en particulier à Hervé Moulet de nous avoir transmis l'enregistrement de cette conférence de Célestin Fresnay.
Le printemps nous a salué et le printemps nous a salué. C'était lui le garde-barrière et il nous a...
Avec les témoignages de Guy Goupil et Michel Barré, instituteur du mouvement Fresnay. Et Philippe Mérieux, professeur de sciences et pratiques de l'éducation à l'Université Lyon 2.
Nous sommes en 1958, un an avant 1959. Et 59, c'est la loi Berthoin, c'est-à-dire le passage de la scolarité de 14 ans à 16 ans, ce qui va provoquer ce qu'on appellera l'explosion scolaire. Du jour au lendemain, on va voir construire une multitude de collèges. On inaugure alors en France un collège par jour ouvrable, ce qui est beaucoup. Fresnay aura beaucoup milité pour cela et il est partisan effectivement de cet allongement de la scolarité obligatoire qui va être le début d'une grande histoire, l'histoire d'une démocratisation un peu ratée puisque c'est une démocratisation qui aura réussi à démocratiser l'accès à l'école mais sans vraiment, contrairement à ce qu'aurait espéré Fresnay, démocratiser l'accès à la réussite dans l'école. Entre l'accès à l'école et la réussite dans l'école, il y a la pédagogie. Peut-être que si on avait plus pris au sérieux la pédagogie Fresnay, on aurait pu faire en sorte que la démocratisation de l'accès se transforme en démocratisation de la réussite.
Prise de son, Alexandre Dang. Mixage, Bernard Laniel. L'école moderne de Célestin Fresnay en 1958, un documentaire de Séverine Liattard et Séverine Cassard. Comme école, ah ah ah, comme amour.
Et oui, à cette époque-là, il n'y avait pas que Sheila qui parlait d'école dans le hit parade de l'époque, mais il y avait également Claude François. Pour ceux qui s'interrogeraient pour savoir qui était ce rôle joué par Bernard Blier, le rôle de Célestin Fresnay, eh bien, nous vous rappelons qu'il s'agit d'un film, L'école buissonnière, un film de 1949 qui racontait l'histoire de Célestin Fresnay, de ses débuts comme instituteur. Et il était signé, ce film, Jean-Paul Le Chanois. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, allez sur le site www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans, la télécharger pendant 1 an après cette diffusion. Laissez vos commentaires, et vous avez déjà commencé à le faire sur nos pages, bien évidemment, ainsi que sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire, sur un réseau social bien connu, Facebook, ou encore en nous suivant sur Twitter. Demain, nous poursuivons cette semaine consacrée à l'histoire de l'éducation en nous plongeant dans un fonds extraordinaire, le fonds de la radio et de la télévision scolaire, un fonds tout juste numérisé ou en cours de numérisation. Nous en parlerons avec ceux qui le font, évidemment, et nous raconterons pourquoi, à l'époque, dans les années 50, 60 et 70, on a cru à la possibilité d'une radio et d'une télévision scolaire.